On est de retour sur les ondes de BPM Sport. Richard Labbé, Hugo Reich, on est là jusqu'à 10h. Et tel que promis, tel que prévu, on l'a avec nous. Et nous sommes très contents. C'est rare qu'on ait un... On peut-tu dire une légende, Marc Messier?
Oui, je viens du pays des légendes. Qui, alors, comme chacun le sait, est pas loin d'ici.
Exactement. Alors voilà, Marc Messier qui est ici en personne.
Oui, bonjour, ça me fait plaisir.
Ben écoute, bienvenue. Il y a plein de raisons pourquoi... La raison première que je voulais t'inviter, c'est parce que j'ai vu que ça fait 40 ans de lancer compte.
Oui. C'est fait, c'est vrai.
Ça
c'est
s'en
vrai.
Vient. Alors, on va parler de ça. Là, tout le monde m'écrit pour... Là, faut qu'on... Il me dit, tout, faut que tu lui parles des boys. On va faire le tour. Tu sais, ce qui n'est pas facile, c'est quand on reçoit un invité, j'aime le présenter. Et là, je vais nommer les choses qui ont été accomplies par l'invité en question. Mais dans ton cas, ça serait trop long parce que t'as fait trop de choses. Ça me prendrait à peu près 50 minutes. Alors, tu as fait Marc Gagnon dans la seconde.
Ouais.
Tu as fait Bob dans les boys.
Ouais.
C'est comme ça qu'on va te présenter.
J'ai joué dans Brou.
Oui,
c'est... J'ai joué dans La Petite Vie.
Dans plein d'autres choses.
Ouais. Ben, ça fait longtemps quand même.
Mais si t'avais fait seulement Marc Gagnon et si t'avais seulement fait Bob, ça serait déjà une excellente carrière.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est... j'ai eu la chance, en fait, de jouer dans des productions qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. On va dire ça comme ça. Certaines dont on était à la base, comme Brou, c'est quand même nous qui l'avons parti, puis on avait parti un petit théâtre, puis tout ça. Mais Lancé Compte, Les Boys, Lancé Compte, j'avais passé une audition comme beaucoup. Je m'en aperçois maintenant... parce que je m'en fais beaucoup parler, surtout des boys. Je ne sais pas, il y a une renaissance des boys, on dirait, parce que ça fait quand même 25 ans que ça a été fait.
Oui, j'allais dire, ouais. 97, le premier,
ouais,
si je ne me trompe pas.
Oui, le premier film, ouais. 97. Puis après ça, il y a eu 4 films, 5 années de série.
Oui.
Trop.
Il y a de la bière maintenant, les boys, d'ailleurs.
Comment?
Il y a de la bière.
Oui, j'ai vu ça. J'étais à Sherbrooke, pas à Sherbrooke, mais dans le canton de l'Est, puis il y a une dame qui me dit, vous allez me signer ma caisse de bière. Je dis, voyons donc. Oui, il y a une bière qui s'appelle Les Boys maintenant, puis il y a des extraits de répliques sur la caisse. Alors, écoute...
Est-ce qu'on a la dureté du mental sur une caisse quelque
probablement,
part?
Probablement.
Avoir su, j'aurais apporté ma propre caisse, je te l'aurais fait signer, mais j'étais pas au courant. Marc, cette réplique-là,
ouais.
On peut pas passer à côté. Est-ce que ça... T'as aucune autre réplique dans l'histoire du cinéma québécois qui est aussi célèbre que celle-là?
Je pense pas, non. Il y a eu longtemps Sacrement Suzy, que les gens m'arrêtaient sur la rue. Tu me dirais-tu Sacrement Suzy? Certainement. Certainement.
Comme ça, là, au coin de la rue.
Au coin de la rue, c'est arrivé. Mais c'est une phrase, c'est un... Ouais, ça a fait beaucoup de chemin, ça. Et écoute, c'est parce que ça sert à beaucoup, notamment dans le milieu sportif. C'est ça, la mental toughness. En fait, c'est commencé comme ça. Hein, que moi, on tournait les boys, puis je travaillais avec Louis Saya, puis René Brisebois, François Camiran, qui travaillait au scénario. Puis en tournant, là, j'avais dit à Louis, écoute, il y a un thème sportif qui se dit beaucoup, c'est mental toughness. Puis là, je commençais. Puis là, Louis, il dit, dis donc, la dureté du mental. J'ai dit, oh, bon, je trouvais ça très drôle. Ça a commencé tout bonnement comme ça, un après-midi. Puis bon, ça a servi beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'était pas dans le scénario original, donc?
Non, c'était pas dans le scénario original, ça s'est trouvé sur le plateau.
OK.
Ouais, on a trouvé ça sur le plateau, comme beaucoup de choses dans les boys qui ont été apportées par les acteurs aussi. Mais la formule, la dureté du mental, c'est Louis Saya qui a trouvé ça. C'est ça qu'il me dit.
C'est ça que il t'a dit que c'est lui. Mais le monologue que tu fais dans le vestiaire,
Ouais.
Ça a l'air improvisé.
Non, c'était pas mal écrit, ça.
OK, c'était écrit, OK.
C'était pas mal écrit, ça. Stan, un moral de Cadillac et puis tout ça.
C'est ça,
là.
Ouais.
Moi, j'ai juste le bout, là, j'ai lu ça quelque part, puis le personnage, il a probablement jamais lu un livre. J'ai lu ça quelque part, le mental toughness, la dureté du mental. Et puis, non, c'est drôle parce que cette scène-là, ce monologue-là, on l'a fait une journée, puis on est obligé de reprendre le lendemain parce qu'il y avait eu un problème de focus, semble-t-il, à la caméra. Et donc, je l'avais fait deux fois. Et moi, je préférais celle du matin. Mais ça, c'est parce que c'était la première, puis c'était plus spontané. Je pensais que c'était meilleur, mais dans le fond, c'était pas meilleur. Là.
Ils ont dû garder la meilleure, j'espère.
Ils ont gardé la meilleure. En tout cas, celle où qui avait le point était parfait, là.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'arrêtent pour te demander de réciter ce bout-là?
Ben là, c'est tout le temps le mental. Hey, le mental! Non, c'est très drôle. Quand tu joues dans des choses qui sont très populaires, comme La Petite Vie, puis qu'à cette époque-là, les gens, tout le monde regardait la TV le même soir, à la même heure.
Oui.
Tu sais, alors mettons que dans La Petite Vie, il y a quelqu'un qui m'appelait, je sais pas moi, le muffin aux carottes ou je sais pas quoi. Alors, le lendemain, c'est comme José Deschênes qui se faisait appeler Creton. Écoute, là, de bord en bord de la rue, je me rappelle, un matin, je m'en allais avec ma fille qui était petite à l'époque. Puis, hey, le muffin! C'est bord en bord de la rue. Puis, papa, qu'est-ce qu'il dit? Ben, non, laisse faire.
C'est pas important.
C'est pas important.
Parce que le monologue, je me suis dit, c'est sûr qu'il doit y avoir des compagnies qui t'ont approché pour aller livrer le monologue en personne devant les employés, par exemple, pour des raisons de motivation. C'est-tu arrivé, ça?
Non.
Pas encore?
Non.
OK.
Pas que je me souvienne, en tout cas.
En tout cas, moi, j'aurais pensé de le faire, avoir une compagnie.
Ben, peut-être qu'ils ont passé l'extrait, je sais pas.
Tu sais que quand c'est sorti en décembre 97, le premier week-end en salle des Boys a éclipsé Titanic. Titanic qui venait de sortir de James Cameron, évidemment.
Leonardo
DiCaprio, au Kent Winslet.
Ouais.
C'était la seule place au monde, le Québec, où Titanic n'était pas à la tête du box-office parce que les Boys étaient à la tête du box-office. C'est incroyable.
Oui. Ben oui. Non, le Québec est très singulier. Le Québec se démarque souvent à tort ou à raison. Mais non, c'est vrai ça. Il disait ça à l'époque. Il nous avait dit ça.
Et quand vous l'avez tourné, Marc Messier, ce film-là, sur le coup, étiez-vous un peu conscient de ce que ça allait devenir? Est-ce qu'on peut l'être? Je ne sais pas si on peut l'être, mais...
Ben, pas à ce point-là, non. Je pense. Non, il y avait dans le groupe, il y avait vraiment... comment est-ce qu'on dit ça? Ça fonctionnait très bien dans le groupe. On avait beaucoup de plaisir ensemble, mais chacun aidait l'autre. Tu devrais peut-être essayer ça, fais ça. Il y a eu ça dans les trois premiers films, beaucoup. Et puis, il y avait beaucoup de monde de talent. Écoute, là-dessus, tu sais, Rémi Girard, Luc Guérin, Michel Charette, Patrick Huard, Paul Hood. Tu sais, il y avait beaucoup de monde différent. Puis, on riait vraiment beaucoup. Et puis, le scénario était bon. Le scénario avait quelque chose de vraiment intéressant, tu sais, de solidarité des gars, puis le fait que ça se passe dans le vestiaire du hockey, puis c'était très gars, puis tu sais, puis on se moquait beaucoup du comportement masculin. Alors ça fonctionne tout le temps. Bruce, c'était un peu le même principe.
Ouais, ouais.
Tu sais, c'est... alors, tout le monde... Puis le hockey, comprends-tu? Le hockey au Québec, qui est très populaire. Puis il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient dans les personnages, j'imagine. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le scénario. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de pas compliqué, de simple, puis en même temps de pertinent. Puis il y avait de la place pour mettre un peu d'émotion aussi, puis de relations entre gars. Puis il y avait beaucoup de talent de comédie sur le plateau. Il y avait vraiment... C'est un jeune Patrick Huard, puis un jeune Michel Charette, puis non, c'est intéressant, Rémi, qui était comme le boss de tout ce monde-là. C'est intéressant.
Et il y avait une dynamique, je pense, que c'est probablement la raison du succès, en tout cas, l'une des raisons, la dynamique de la chambre de hockey.
Ouais. C'est ça.
Tout le monde qui a déjà mis des patins connaît la dynamique de la chambre de hockey.
Ouais.
C'était comme littéralement, là, on pouvait se reconnaître dans cette chambre-là.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y avait ça qui faisait que les gens pouvaient s'identifier.
Et t'es-tu un gars de hockey toi-même?
J'ai fait beaucoup de hockey quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de hockey de compétition. Mon highlight, en fait, je suis allé au camp d'entraînement du Canadien junior, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que à cette époque-là, on parle des années 60, le Canadien contrôlait à peu près tout ce qu'il y avait de hockey au Québec. Et il faisait des pré-camps. Et moi, j'étais allé avec cinq... Moi, je viens de Granby. On était cinq gars de Granby qui avaient été choisis par un éclaireur qui s'appelait Roger Bédard, qui ensuite a coaché le Canadien junior. Puis on était allé à un camp d'entraînement à l'auditorium de Verdun pendant toute une fin de semaine. Honnêtement, on y allait plus pour le voyage, là, parce que il retenait pas beaucoup. Mais j'ai tu sais, il y avait Claude Ruel qui était là, le prof Caron, Cliff Fletcher, tout le qui travaillait pour le Canadien à cette époque-là. Puis c'était quand même assez sérieux. Claude Ruel était venu nous faire un speech dans la chambre, puis grouillez-vous, puis c'est effrayant, puis etc. Puis je me rappelle, après, le dimanche soir, on passait tous en ligne. Puis là, il y avait le LIAS parce qu'il nous remboursait.
Puis vos dépenses?
Nos dépenses. Puis il m'avait dit, t'as un bon coup de patin. Travaille un peu, faut que tu grossisses un peu, etc., etc. Puis il y avait des gars qui ont percé après avec le Canadien. Claude Chagnon, un gars, mais il s'est pas rendu Canadien parce qu'il a été blessé, mais qui était vraiment très, très doué à l'époque. Alors, c'est pas mal le plus loin que je me suis rendu. Mais j'ai connu des gars qui ont, tu sais, de mon quartier venait Marc Tardif.
OK.
Je me rappelle d'avoir joué sur la patinoire extérieure de l'école primaire avec Marc Tardif quand on avait... moi, j'avais 12 ans, puis lui en avait 10. Puis il y avait à peu près 3 pouces d'eau sur la glace parce qu'il y avait eu un redout, puis il y avait juste nous deux qui jouait. Et non, le hockey, j'étais maniaque. Écoute, moi, enfant, je faisais partie de ces enfants québécois qui rêvent de jouer pour le Canadien, évidemment.
Ben, tu t'es rendu au pré-camp.
Oui, on jouait avec... écoute, c'était du ancien stock des joueurs de la Ligue nationale. Je me rappelle, il y avait des choses identifiées d'Henri Richard, tu sais, des Jean-Bière, puis tout ça. Non, écoute, on était pas loin. On était juste sur le bord.
Il manquait à peine quelques centimètres.
Oui. Non, c'était impressionnant.
Et quand tu as fait, pour revenir à l'ancien compte, les scènes de patinage, là, ça, avec le temps, on a disputé la véracité, mais est-ce que tu étais vraiment patin sur les...
En fait, il faisait deux shots. Les shots de loin ont été doublés.
OK.
Parce qu'on n'a pas le coup de patin de la Ligue nationale. Là. Mais les shots de proche, moi, je les faisais. Mais évidemment, puis c'était une bonne idée. Puis les gars qui nous doublaient, c'était des gars qui avaient joué dans la Ligue américaine. Moi, j'étais doublé par Bob Girard, qui a joué pour les Capitals de Washington à l'époque, qui a joué pour, comment ça s'appelait, les Seals d'Oakland, les patins blancs.
Oui, Golden Seals, oui.
Alors, c'est Bob qui me... parce que j'étais pas très gros... surtout que je jouais brou le soir, puis je tournais lancé contre le jour, donc j'avais beau essayer d'être gros, ça marchait pas. Alors c'est Bob qui avait le... Puis il y a plein de gars qui avaient joué dans la Ligue américaine, et puis puis des gars qui avaient fait du gros junior, là, tu sais, qui étaient passés à un cheveu de se rendre à la Ligue nationale, qui nous doublaient. C'est important parce que ça, c'était la Ligue nationale. Les boys, c'était une ligue de garage. Fait que là, tu comprends, ça pouvait être un peu n'importe quoi. Mais moi, on avait passé une audition, d'ailleurs. J'ai passé une audition en français, une audition en anglais, parce que c'était tourné en français puis en anglais, puis une audition sur glace. Et je me rappelle, à un moment donné, ils ont fait un trio avec Karl Marotte, puis Jean Harvey, qui jouait l'ami de Karl Marotte dans le script. Puis moi, j'étais à l'autre côté. Là, je me suis dit, d'après moi, ça va marcher.
OK, tu l'as vu, là.
Ouais. Mais je veux pas me vanter, mais pour un acteur, je me débrouillais quand même bien au hockey, là. je savais assez pour faire semblant.
Okay.
Tu sais, je pouvais imiter, mettons, ouais. Comment patinait un tel ou un tel. Tu sais, un gars de la ligne d'admettre. Mais, tu sais, j'étais pas... On n'a pas idée comment ces gars-là sont bons, là.
Ah, ben on le voit, là.
Tu sais, ça a pas de bon sens quand t'es voix de proche, là.
Ouais.
Écoute, juste le coup de patin sur la glace, là, qui, ça rentre profondément, là, tu sais, c'est... On n'a pas idée comment c'est faut être bon pour jouer dans la Ligue nationale.
On retient quand même cette phrase-là, savoir assez pour faire semblant. Moi, je vais mettre ça sur un T-shirt, je pense.
Mais c'est ça qui arrive. Nous, acteurs, moi, j'ai joué un dentiste. Et je suis allé dans un cabinet de dentiste et puis je regardais comment il procédait. Mais tu sais, j'aurais jamais arraché une dent.
On espère.
Mais l'idée, c'est de savoir assez...
Pour faire semblant.
Pour faire semblant, pour que ça soit crédible.
OK.
Et ça, pour le hockey, moi, je étant maniaque de hockey, ayant vu beaucoup de hockey, puis ayant joué avec des gars qui se sont rendus quand même loin dans le hockey, j'étais confortable avec ça.
J'ai entendu une histoire assez rocambolesque. On va aller à la pause et au retour, je vais te demander de est-ce un mythe, est-ce une légende urbaine, mais j'ai entendu dire qu'au moment où le National gagne sa coupe cette année, c'est vraiment pendant un match des Nordiques.
Oui.
Et j'ai entendu dire que ça a comme jeté un mauvais sort sur les vrais Nordiques. Alors,
c'est pas possible.
On a Marc Messier qui va nous démêler tout ça.
Ouais,
ça fait des années que j'ai le goût de lui poser cette question-là. On lui pose la question au retour de la pause. On est de retour avec Marc Messier et on poursuit cette franche discussion sur le hockey et les projets, les multiples projets de cinéma, Marc. Et avant la pause, on parlait de lancer compte. Et j'ai entendu dire, et là, tu es ici pour rétablir les faits.
Oui.
J'ai entendu dire qu'en 86, donc, vous tourniez la scène, la fameuse scène, où le National de Québec gagne la Coupe Stanley au Colisée.
À la fin de la première série, c'est ça, on gagne la Coupe Stanley.
C'est ça.
Et ça s'est tourné au Colisée de Québec, parce que la première saison, on tournait toutes les scènes de glace et d'aréna au Colisée de Québec, ce qui était extraordinaire, parce que les Nordiques existaient.
Exact.
Et on voyait les Nordiques s'entraîner, on voyait l'équipe qui les visitait s'entraîner. Question hockey, là, fan de hockey, c'était vraiment extraordinaire. Et on a tourné ça en deux périodes. Je pense que contre qui ils jouaient, donc je me rappelle pas. Je me demande si c'était pas Hartford, mais c'est ça. Nous, on attendait dans le corridor, puis en deux périodes, on avait tout chorégraphié ça l'après-midi, puis le jour d'avant. On avait toute une chorégraphie qui durait à peu près 7-8 minutes, on se promenait avec la coupe.
Ouais.
Alors, les gens, tu comprends-tu, le Colisée était plein, les gens capotaient. Puis cette année-là, les Nordiques étaient en lice pour gagner la coupe parce qu'il y avait un très bon club.
Printemps 86, oui, absolument.
Ouais. Alors, les gars, les joueurs des Nordiques, ils haïssaient bien ça. Là. Ils voulaient pas voir la coupe. Ils trouvaient que c'était vraiment une perte de temps. C'était quoi
ça? En fait, c'est du blasphème parce qu'au hockey, t'es pas censé lui toucher, évidemment, mais même pas la voir. Il y a des joueurs qui veulent même pas la voir.
Oui, exactement. Puis nous autres, on se promenait avec la coupe, toi, au bout des bras, comme si les Nordiques avaient gagné la coupe. Puis le public était hystérique. Puis ça a porté... Moi, je pense que ça a porté malchance aux Nordiques qui se sont fait sortir, je pense, en première ronde.
En trois matchs par Hartford.
C'est ça, hein?
Oui.
C'est ça, ils se sont fait sortir en première ronde, puis je pense que ça a eu quelque chose.
Ben, mais Michel Bergeron, de mémoire, par la suite, avait soulevé ça, avait dit comment ça qu'ils sont venus ici, puis ça nous a dérangés, puis ça a déconcentré les gars.
Ben oui, absolument.
C'est de votre faute.
Je me rappelle, Peter Stachny, il haïssait ça, là, il nous regardait comme si on était des « qu'est-ce que vous faites là? » Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux... Marcel Aubu avait ouvert la porte.
Oui, exactement.
Et puis, on avait tourné ça. C'était parfait pour le tournage. Écoute, il y avait peut-être 10 caméras dans le Colisée, puis la foule était absolument...
En liesse.
En liesse, totalement. Tout le monde était debout, il applaudissait. Pour nous autres, c'était extraordinaire. Ça faisait, c'était vraiment comme si on gagnait la Coupe Stanley.
Ouais.
Ça avait servi le tournage. Mais pour la réalité, c'était un petit peu moins bon.
et comme comble de malheur pour les partisans des Nordiques, il y a un gars de 20 ans qui s'appelait Patrick Roy, qui s'en va devant le filet du Canadien ce printemps-là, qui est miraculeux. Et ce sont les Canadiens qui gagnent la Coupe Stanley.
C'est ça, c'est l'année en 86, Canadiens ont gagné la Coupe Stanley.
Exactement.
Oui, ben, et puis on se rappelle la rivalité qu'il y avait.
Ben, c'est ça.
Parce que l'ancien compte devait être tourné à Montréal.
Oui, c'est ça. Donc, ça devait être le Canadien, l'équipe. Ça devait être le bleu, blanc, rouge.
Mais paraît-il, la direction du Canadien a comme lu les textes puis ont dit non. Non.
Trop de mœurs,
puis non, on va trop maganer la flanelle, il n'y en est pas question. Et là, la chance, en tout cas, la chance qu'on a eue, puis la chance que les producteurs ont eue, puis tout le monde, c'est que Marcel Aubut, qui était à Québec, lui, il a dit « Venez-vous-en à Québec, nous autres, ça va nous faire plaisir ». Puis là, on avait toutes les installations, puis bon, Québec avait un club de la Ligue nationale en plus, c'était extraordinaire. Mm-hmm. Vraiment. Mm-hmm. C'est pour ça que Régent Tremblay et Marcel Aubut, ça les a beaucoup liés.
Oui.
Ça.
Oui, exactement. Puis,
Je pense que Régent en devait une à Marcel.
Mais ça a été aussi certainement un rayonnement pour les couleurs de l'équipe. C'était le chandail à peu de choses près, c'est la même
c'était
chose.
C'était beaucoup mieux, en fait, parce qu'il y avait beaucoup moins de pression
que
si ça avait été un faux Canadien. Tu sais, je sais pas, il n'y avait pas la même tradition chez les Nordiques, puisque l'équipe était plus récente et puis c'était comme plus ouvert, puis c'était très québécois en même temps. Ouais. Tu sais, les Nordiques, les gens qui allaient voir les Nordiques, tu avais beaucoup de gens de Rimouski, Rivière-du-Loup, puis l'Abitibi, puis tu comprends, il y avait quelque chose, c'était parfait, c'était parfait.
Il y a des fois où la réalité s'entremêle avec la fiction, et Marc, tu me disais que... le coach des Nordiques, Michel Bergeron, commençait à se demander si ce qu'on voyait à l'écran, c'était trop proche de la réalité, puis c'était quoi qui était pas vrai. Puis à un moment donné, il t'a fait rentrer dans le bureau, Michel Bergeron.
Oui, oui, oui. Michel Bergeron, que je connaissais un peu, parce qu'il était venu voir Brou. Moi, écoute, pour la petite histoire, j'ai déjà participé à un tournoi quand j'avais 14-15 ans, avec Marc Tardif, justement. On était venu jouer à l'Arena Maurice Richard, puis Michel Bergeron a mon âge, et il jouait pour les comités des jeunes de Rosemont. Et il jouait dans l'équipe contre qui on jouait. C'était des clubs d'étoiles, là. Puis il nous avait dit, il y en a un petit là qui est fatigant. Puis Michel n'a jamais été très grand. Et effectivement, il était un
ça,
petit fatigant.
Ça n'a pas changé.
Ouais. C'est ça. Puis on s'est retrouvés plusieurs années après. En tout cas, bref, oui, il m'avait convoqué à son bureau pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait. Parce que les gens commençaient à être frileux un peu après la première saison, surtout en voyant ce qui avait été raconté puis tout ça, tu sais. Mais je me rappelle qu'il y avait tous un sourire en coin. Ils regardaient ça, tu sais, un peu. Tu sais, on était... T'sais, on n'avait rien à voir avec la Ligue nationale. Là. Comprends-tu que Guy Lapointe, à un moment donné, était assistant des Nordiques. Oui. Puis moi, écoute, les gars, à un moment donné, avant la pratique, ils regardaient comment on tournait une scène. Hein. Moi, j'étais gêné, comprends-tu? Tourner devant les vrais. Mais non, c'était comme hockey, fan de hockey, c'était extraordinaire. C'était des années magnifiques, vraiment.
Et le pire, je crois comprendre, Marc Messier, que tu as failli dire non.
Oui, c'est vrai ça. Oui, parce que moi, je jouais Brou.
Oui.
C'est une période où j'étais très occupé. J'ai une fille qui a 41 ans, donc qui avait un an à l'époque, un petit bébé. Et je passe l'audition, puis à un moment donné, je me rappelle, un samedi matin... Lucie Robitaille, qui était responsable du casting, Hélène Robitaille, qui était la sœur de Lucie, en tout cas, elle m'appelle, puis elle me dit c'est toi qui as le rôle. J'ai dit ouais, je sais pas si je vais faire. Moi, je jouais Brou 150 fois par année. J'avais joué dans le Bye Bye. J'avais des projets, là. Tu sais, je pense pas de. Puis j'ai dit ça. Ça va être tourné en studio, toi, aux caméras. Comment est-ce qu'ils vont faire plein de l'art? Moi, j'avais l'impression, je me disais, ça va être poche. Tu sais?
Ouais.
Je me disais, mais non, elle dit, c'est fait en cinéma et ça va être fait dans location. Ça va être, on va tourner à l'Arena à Québec puis tout ça. Je dis, ah oui. Et elle me dit, Marc, si j'étais toi, je dirais oui.
Oh, OK.
Et là, j'ai comme compris, cinéma. OK. Et j'ai dit oui, puis évidemment, j'ai jamais regretté, parce que ça a été vraiment important dans mon parcours, parce que c'était un gars de mon âge, tu sais, que je jouais. c'était quelque chose de dramatique. Moi, je faisais surtout de la comédie à l'époque. J'avais joué dans Brou, j'avais joué dans les Bye Bye, puis toutes sortes de...
Les voisins.
Les voisins, puis plein de choses comme ça. Alors, ça changeait un peu. Je jouais un gars de mon âge. C'était des scènes dramatiques. Mm-hmm. C'était un personnage qui était très riche, qui pouvait aller dans toutes sortes de directions. C'était un gars qui était malheureux dans sa vie de couple, puis il était malheureux au hockey parce qu'il s'entendait pas avec le coach, puis il voulait le sortir. Puis lui, il s'acharnait. Puis ça avait été une grosse vedette du National de Québec à l'époque. Écoute, il y avait des... Je pense que j'avais 6 saisons de 50 buts. Tu sais, le rôle était inspiré par Guy Lafleur,
ouais, ouais.
Pierre Larouche. Régent m'avait dit Guy Lafleur, Pierre Larouche, beaucoup. Qui étaient des gars qui ont... Tu sais, c'était pas le genre, je m'en vais à ma pratique, puis je m'en vais à la maison, puis je regarde la télé. Tu sais...
Non, c'est... c'était très... Guy, c'était très... Guy semble-t-il, avait de longues soirées, mais il se présentait le lendemain, il était le premier sur la glace.
Oui, tout à fait. Puis moi, j'avais un gros problème. Puis, tu sais, Yvan Ponton, qui jouait le coach avec Yvan, avec le coach, j'avais un gros problème, là, parce qu'il me benchait. Puis c'est drôle, parce qu'à chaque fois que j'embarquais sur la glace, je scorais. Tu sais, je rongeais mon frein sur le banc, et puis à un moment donné, il n'y avait pas le choix, il me faisait jouer, puis là, je scorais.
C'est un rôle qui change une vie quand même.
Ah oui, pour moi, ça a été bien important. Ça a été primordial dans mon parcours, parce que aussi, c'était avec un autre groupe, des gens que je connaissais pas, les producteurs, j'avais jamais travaillé avec Jean-Claude Laure, tout ça. J'avais fait peu de cinéma, et ça a été une école de cinéma en même temps. J'ai appris à comme tous ceux qui ont participé à l'Anses et Contes. Puis, quand c'est sorti, ça a eu le succès qu'on connaît, puis jouer dans quelque chose qui a bien du succès, puis que t'aimes faire partie de cette équipe-là, tu peux pas avoir mieux que ça, là.
Effectivement. On va prendre une petite pause, Marc Messier. Juste avant, j'ai une question très rapide. C'est sorti, ça, en 86. On fête le 40e anniversaire très bientôt. Et en 86, il y a un gars des Oilers d'Edmonton qui s'appelle également Marc Messier. Mais avec un cas. Est-ce qu'on vous a déjà confondu?
Ouais. Moi, une fois, j'étais à New York... J'étais à New York et j'appelle dans un restaurant pour réserver, puis le gars me demande mon nom, fait que je dis Marc Messier, fait que le gars dit « Are you the real… » Je dis « Of course, je suis Marc Messier. »
Oui.
J'arrive là, je dis « Bon… » Fait que j'étais avec ma blonde à l'époque, on arrive au restaurant, on avait une place de choix, mais quand le gars m'a vu… dit « You're Marc Messier ». J'ai dit « Oui, je suis Marc Messier. Qu'est-ce que je te dis? » J'ai dit « C'est ça. Ah, tu pensais que c'était l'autre? Ah, ben là, excuse-moi. On peut-tu s'asseoir là? Par... »
La réservation était encore bonne, j'espère, oui.
Oui, parce qu'il était sûr. Je l'ai déjà rencontré une fois.
C'est vrai?
Oui, à un hôtel à Québec, parce que lui était là pour le tournoi Pee-Wee. Je pense qu'il y a un de ses enfants qui jouait.
Okay.
Et au déjeuner le matin, écoute, moi, je joue Brou à Québec. Puis le matin, je suis en train de déjeuner, je suis assis à une table, et la table suivante arrive Marc Messier, comprends-tu, ce gaillard, d'ailleurs, il est bâti, etc. Et là, tout le monde qui passe devant rit. Tu comprends, les serveurs,
ah, oui.
Les gens font, ils trouvent ça très cocasse,
ben
et
oui.
Tout ça. Et là, je dis à Marc Messier, j'ai dit, sais-tu pourquoi le monde rit? Lui, il avait même pas remarqué ça. Là. J'y explique que je jouais dans une télésérie qui s'appelait He Shoots, He Scores en anglais. Puis c'est pour ça, parce que je m'appelle Marc Messier, comme toi. Puis il a fait, ah, OK, yeah. Okay. Fin de la. Je suis resté un peu sur mon anecdote. Fait que, bon, c'est pas chaud. Rien de plus intéressant à te dire. Et toi non plus, obviously.
Marc Messier n'était pas impressionné par Marc Messier, de
toute
évidence.
Non, c'est ça. Écoute, c'est resté là.
Bon, c'est facile de retrouver mon calme si c'est possible. D'ailleurs, si un jour je croise Marc Messier, je vais lui dire, tu te souviens pas de Marc Messier?
Je suis sûr que ça ne s'en rappelle pas.
On fait une petite pause, on tente de retrouver nos esprits et on revient tout de suite après avec pas Marc Messier, avec Marc Messier. On est de retour avec Marc Messier et non pas Marc Messier. Ce sont deux personnes différentes,
oui.
Comme on l'a très bien constaté.
Oui, j'ai plus de cheveux, mais il est plus riche. Pas de t'avoir.
Et avant, pendant la pause, tu nous parlais, j'étais pas au courant de ça. Donc, L'Anse et Compte a été traduit en anglais.
Oui. Quand on a tourné la première saison, on tournait, c'était ce qu'ils appelaient double shooting, c'est-à-dire en anglais pas en français.
Oui.
Et quand c'est sorti, ceux qui avaient un accent francophone, quand on jouait en anglais, ils nous ont doublés par des comédiens anglophones. Moi, j'étais doublé. Carl, lui, évidemment...
Il avait déjà travaillé en Ontario, je pense, Carl.
Ouais, Carl était plus confortable en anglais. Marina parle très bien anglais aussi. Donc, eux autres n'étaient pas... Je pense qu'Yvan Ponton n'était pas doublé non plus.
OK. Mais, il avait joué dans Slapshot.
Michel Daigle qui faisait Nounou. Il l'avait doublé, pauvre Michel. On était pas tous très forts en anglais, tu comprends? Alors... moi, j'arrivais de jouer Brou en anglais, parce qu'on a joué Brou pendant 200 fois en anglais. Les gens ne savent pas vraiment ça. Mais tu sais, on a joué un mois à Vancouver,
mais
un mois à Toronto.
Mais souviens-toi ça, ouais, vaguement. Ça s'appelait comment?
Ça s'appelait Brou.
Brou,
OK. B-R-E-W.
OK.
Et j'étais comme, tu sais, j'avais une certaine aisance en anglais. Okay. Et j'avais quand même un accent, donc, qui m'avait doublé.
Mais la série a été diffusée, donc, en
CBC.
Anglais. Ouais. Et t'as croisé, on parlait de Marc Messier, qui jouait à l'époque, quand c'est sorti, qui jouait avec les Oilers. Il y avait un coéquipier qui s'appelait Kevin Lowe.
Ouais, Kevin Lowe, j'avais rencontré, lui, mais il était au courant de ça. Tu sais, il shoot his scores, ça s'appelait en anglais, il était au courant de ça. Mais je pense pas que la série a eu autant de succès
en anglais.
Anglophone.
Okay.
Je suis pas sûr que ça a été la... Parce qu'ici, au Québec, ça a été un gros, gros, gros succès. Là. Écoute, les rues étaient vides à 8 heures, semble-t-il, le jeudi soir, quand ça passait.
Je me souviens très bien,
c'était... Et tout le monde qui a participé, on est tous devenus comme très, très connus, là. Instantanément.
Et vous aviez tous aussi également des rôles, je pense, qui ont défini certainement d'une certaine façon, le cinéma québécois, en tout cas la télé québécoise, parce que tu disais tout à l'heure, tu sortais dans la rue et les gens te parlaient comme si t'étais Marc Gagnon. Ça veut dire que c'est fort quand même, ça.
Écoute, là, ça avait... c'est parce qu'ici, au Québec aussi, tu sais, on n'est pas si nombreux. Alors, quand quelque chose marche, ça fait le tour, c'est pas long.
Ouais.
Tu sais, quelqu'un va sortir, un couvre-chaussure qui a beaucoup de succès, ben, tu sais, 3 semaines après, tout le monde va l'avoir, là.
Ouais.
Tu sais, ça s'est passé très vite. Dès le début de la série, c'était comme magique, à cause du hockey, beaucoup, là où ça se passait. Puis il y avait, c'était bien tourné, il y avait une vérité qui était respectée. Régent Tremblay qui fournissait, qui avait fait le texte, avec Louis Caron, la première saison. Tu sais, Régent, il s'inspirait de plein d'anecdotes là, que lui avait vécues.
Il avait fait le tour de la Ligue nationale déjà. Là.
Ouais. Oui, lui avait couvert les Canadiens depuis je ne sais pas combien de temps. Puis tout ce qu'il racontait, il l'avait vu. Tu sais, puis c'était un peu transposé, évidemment. Mais tu sais, il savait ce dont il parlait.
Mm-hmm.
Et Jean-Claude Laure était quelqu'un qui tenait beaucoup à ce que ça soit vrai, quitte... à ce que ce soit un peu, osé un peu. Tu sais, par l'époque, là, on disait pas tabarnouche.
Ça, c'est l'autre affaire. Je me souviens très bien de ça. C'est le langage.
Ouais.
On va dire ça, je sais pas si on peut dire vulgaire, en tout cas, peu importe, mais les sacres, certainement, à l'écran, à heure de grande écoute, c'était, j'ai le goût de dire, c'était...
C'était assez nouveau.
Ouais.
Je pense, comment c'est rare? Aujourd'hui, le monde, je veux dire, il parle à la radio, puis ça dit tabarnak, posti, à tous les 2 minutes.
Ben, nous, on essaye de pas le dire, mais là, tu viens de le dire, c'est correct.
Viens de le dire, mais tiens, une fois par semaine. Mais non, c'est devenu assez... Mais tu sais, c'est sous prétexte de vérité, parce que tu pouvais pas... Le coach pouvait pouvait pas se choquer et dire tabarouette, place-toi, tu sais, ça marche pas, là.
Diantre,
placez-vous, les gars. Ça marche pas.
Effectivement.
Alors, y avait un souci de vérité, puis bon, les jeunes filles, tu sais, c'était un monde de jeunes, hein, l'ancien compte, c'était, moi, je jouais un vétéran, mais les autres, c'était des jeunes joueurs, tu sais, les gars dans la Ligue nationale, ils ont 20 ans.
Ben oui.
20 ans, 25 ans, 30 ans, les plus vieux ont 34 ans, là, tu sais, c'est un monde de jeunes, donc, c'était des jeunes femmes, c'était des jeunes filles, puis Jean-Claude, il parlait des choses telles qu'elles étaient. Alors ça aussi, ça changeait un peu le monde de la télévision. Puis le fait que ça soit tourné dans les lieux même, ouais. Les gens reconnaissaient le Colisée, tout ça, tu sais, c'était bien différent.
Et il y a une scène mythique, évidemment. On parlait tout à l'heure des boys et de ta dureté du mental, mais l'ancien compte, c'est le petit Jimmy avec le coach, puis le petit Jimmy qui se lève, puis ça a été parodié par RBO, puis on connaît la parodie également. Mais la scène, elle est mythique, Marc Messier. Comment on en vient à faire une scène mythique comme ça?
Puis on l'a tourné, écoute, on l'a tourné presque au moins tout un après-midi, parce que... Jean-Claude faisait un plan sur chaque joueur.
Alors,
quand le petit se mettait à marcher.
Ah, ouais.
T'sais, évidemment, c'est une scène très émouvante, là, où, en tout cas, tout le contexte et tout ça. Et il faisait un gros plan de chaque joueur. Donc, je me rappelle, ça avait été comme très long, puis c'était très, très, très émotif. Il y a eu beaucoup de scènes qui ont été très émotives. Moi, je me rappelle, j'avais un speech dans le haut du Colisée où l'amertume, tu sais, du gars qui a rempli le Colisée, puis là, il voulait absolument le sortir de l'équipe et tout ça. Il y avait beaucoup de scènes comme ça. Moi, on a versé beaucoup de larmes dans l'ancien compte. Ouais.
Des vraies larmes, là.
Des vraies larmes. Mm-hmm. Ouais. Moi, j'avais une saga avec Suzy. Évidemment, Suzy s'en va, Suzy revient. Tu sais, sacrement, Suzy, tu t'en vas.
On te demande encore de dire à ce jour.
Sacrement, Suzy, tu reviens. Sacrement, Suzy, tu repars. Tu sais, ça a duré 9 saisons. Et puis, c'était vraiment extraordinaire de tourner ça avec Marina, tout ça. Mais tu vois, on s'amusait beaucoup en même temps aussi.
Oui, mais ça se voit, je pense, quand on regarde. Et ce qui est incroyable, Marc Messier, ça fait 40 ans, on le dit, ça fait presque 40 ans. Ça a bien vieilli, quand même. On a l'impression que, bon, évidemment, les scènes de hockey peuvent paraître au ralenti parce que le jeu maintenant est beaucoup plus rapide, mais sinon, c'est une série qui est encore un petit peu dans l'air du temps.
Je t'avoue que ça fait longtemps que je sais que ça repasse des fois à RTV ou, je pense, quelque chose comme ça. Et moi, ça fait longtemps que je l'ai vu. Faudrait que je la regarde. D'ailleurs, je montre ça à mes enfants qui n'étaient pas nés quand ça...
Ils l'ont pas vu?
Quand j'ai tourné, ma fille aînée avait un an. Moi, j'ai eu d'autres enfants. Après, j'ai une fille qui a 17 ans, puis un gars qui a 22 ans, qui, eux, n'étaient pas nés. Pour eux autres, ils ne savent même pas c'est quoi, là.
Ils ne savent pas c'est quoi.
Le monde dit Marc Gagnon, c'est quoi ça?
Quand les gens t'arrêtent et disent « Suzy, sacrément, tes enfants, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent?
» Ça, écoute, là, ça, je ne sais pas.
Ça s'est calmé, là?
Le fait qu'on en parle, là, parce que ça fait 40 ans, peut-être que là, ça va comme... Mais ça, j'avoue que l'ancien compte, ça commence à faire longtemps.
Ouais.
Les gens qui l'ont vu, là, ils ont autour de 60 ans, là, tu sais, ceux qui avaient 20 ans quand ça passait. Donc, là, c'est plus la renaissance des boys.
Ça, on en parlait. Puis ça, avec, ça s'en vient avec quelque chose de sérieux, là. On est en train de voir... Tu parlais du spectacle tout à l'heure.
Oui, il y a un spectacle sur scène. Donc, ça a comme fait renaître un peu le...
Et quand le personnage de Bob, tu me disais ça tout à l'heure, ça, c'est incroyable, se prépare à faire son fameux speech de dureté du mental, les gens dans la salle, souvent...
Oui, ils disent le réplique avant. Parce que le spectacle c'est le texte du scénario du premier film, mais à peu près mot à mot. Mais tu sais, quand le personnage que jouait Pierre Lebeau, Méo, il disait tout le temps « c'est chien, c'est chien ». Ça aussi, quand c'est Louis Champagne qui joue ça, qui est très bon d'ailleurs. Il dit, les gens le disent avec lui. C'est comme mythique. C'est ça nous, pardon, ça nous dépasse complètement.
Absolument, là. Ouais.
Je veux dire, on n'a plus rien à voir avec ça.
Donc, tu peux avoir les gens sur la scène qui ne parlent pas, et tu peux avoir le public qui réplique.
Les exact. Répliques, mais quand on jouait Brou, vers la fin, puis tout ça, les gens aussi disaient, il y a beaucoup de répliques, là, « Salut, bonjour », les gens disaient les répliques à notre place. Là.
Ça veut dire que...
À un moment donné, tu comprends, le public s'empare de ça, puis là, ça te dépasse.
Ça ne t'appartient plus.
Ça ne t'appartient plus, c'est ça. Exactement.
Et quand ça arrive, c'est pratiquement le signe de quelque chose d'intemporel, j'allais dire de mythique, mais ça veut dire que c'est rendu plus grand que nature.
Mais quand un spectacle, surtout un spectacle... rentre dans le public, mettons, qui va voir les Canadiens ou qui allait voir les expos à l'époque, là, écoute, c'est illimité. Tu sais, quand on jouait Brou, tout le monde disait « ça peut pas arriver au Québec, ça ». Tu sais, le Québec, c'est petit, il y a 30 000 personnes qui vont voir des spectacles, tu sais, pas plus. Mais tu sais, on a joué 3322 fois.
Ça, c'est le nombre exact, ça?
Ça, c'est le nombre exact de représentations. Au Québec, tu sais, ça se pouvait pas. Mais on dirait que c'est illimité. Mmh. On dirait que tout le monde voulait le voir, puis certains voulaient le voir plus qu'une fois. Puis après ça, ils disaient, ils amenaient leurs enfants voir la pièce. Alors, c'est ça.
Comme tu vas voir les Rolling Stones maintenant avec tes enfants, puis les enfants de tes enfants éventuellement.
Exactement.
Ben Marc Messier, c'est incroyable. Avant qu'on se laisse, je tenais à m'excuser.
Ah oui?
Ouais. Dans tous les films que tu as fait, peut-être t'en as oublié certains. Est-ce que tu te souviens d'un film que tu as tourné en 91 qui s'appelait Solo?
Oui.
Qui n'a rien à voir avec Star Wars, par ailleurs.
Solo, un film de...
Paul Baillargeon.
Paul Baillargeon, exactement.
Te souviens-tu d'une scène dans un salon de quilles?
Dans un salon de quilles?
Oui.
Très vaguement.
Bon, moi, je m'en souviens.
T'étais là?
Alors, oui, ce qui s'est passé, c'est que cette année-là, j'étais au cégep et je me trouvais des jobs de figurant. Alors là, je me suis retrouvé figurant sur ce plateau-là, cette scène-là. Et tu sais comment ça marche pas mal plus que moi, mais à un moment donné, sur le plateau, il y a quelqu'un qui dit « OK, break, lunch. » Ça en va en break de lunch. Et j'ai fait mon smat. Je me suis dit « Bon, ben, je vais rentrer à la maison. Je vais manger un petit quelque chose. Je vais revenir. » Mais tu sais, à l'époque, tu n'avais pas les téléphones intelligents, les montres intelligentes. Alors, j'ai mal calculé le temps que ça allait me prendre pour partir du salon de quilles jusqu'à ma maison. Alors, je me suis mis à courir comme un fou pour rentrer à la maison en vitesse. C'était l'été, il faisait chaud. Je rentre à la maison, je me prends un petit quelque chose. Mais là, mon chandail est détrempé. Parce que j'ai couru, puis là je me change de chandail. Je ne peux pas retourner de même. Je dis à mon père, donne-moi un livre, papa. Je vais être en retard sur le plateau. Le monde va m'attendre. Marc, je reviens sur le plateau. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un dans le plateau, je pense que c'est Paul Baillargeon déjà, qui dit, OK, un instant, ça marche pas, là. Et là, elle me pointe.
Parce que t'avais pas le même chandail.
J'ai pas le même chandail. J'ai un chandail de couleurs différentes.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, il y a un assistant paniqué qui vient me voir. Il me dit, il est où ton chandail? Je dis, ben, il est chez nous. Il était détrempé. J'ai couru pour m'en venir ici. L'assistant panique. Il dit, OK, là, ça, je te donne 20$. Tu prends un taxi, tu vas chercher ton chandail, tu reviens.
Arrête donc, toi.
Je pense que je vous ai paralysé pendant au moins une heure de temps.
Ah oui?
Et quand je suis revenu, tu étais particulièrement pas content.
Moi?
Oui, t'étais pas content, tu m'as regardé, tu m'as jeté un regard glacial. Oui, alors je tenais à m'excuser ici, 34 ans plus tard.
Je me rappelle même pas de ça.
Je suis content que tu t'en souviennes pas.
C'est parce qu'il a été obligé au montage de
m'enlever?
De t'enlever. Ben, c'est, à
ben puis dans le temps, ça se faisait pas.
Il pouvait pas t'enlever à l'époque, donc ça l'est... je me rappelle pas de ça. Je me rappelle même pas qu'on est tourné dans un salon de quilles. Je me rappelle du film, par exemple.
Ouais.
Je me rappelle de Paul Baillargeon. Je me rappelle de ce que je jouais. Mais
c'était pas au Stade Olympique. Il y avait une scène où...
Oui, il y avait un appartement au Stade Olympique.
C'est ça. Dans les pyramides.
Lui, il restait à l'ancien...
Exactement.
C'est ça.
Pyramide olympique.
Ouais,
exactement.
Ouais, ouais.
Ben, je suis content que tu t'en souviennes pas. Après toutes ces années, je me demandais si tu m'en voulais encore.
Franchement. <Alors. rire>
Je suis très soulagé.
Dors tranquille. Je t'en prie, dors tranquille.
Hey, on règle des affaires à l'émission, c'est ce qu'on vient de faire.
Y a-tu d'autres choses? Hugo, as-tu quelque chose?
Non, hein, pas à mon souvenir, non.
Mon Dieu, je t'ai pas regardé, toi, avec un
non, pas encore. Non. Pas encore. Okay. Si ça arrive, je m'excuse d'avance.
S'il y a des gens qui nous écoutent, qui font de la figuration, ne vous changez pas.
Ne vous changez pas. Non. C'est bien important.
Parce que là, ça défait tout le plateau.
Mon Dieu, écoute.
J'ai appris ça. Ben, Marc Messier, écoute, on t'aurait gardé probablement jusqu'à 17h ce soir. malheureusement, ça sera pas possible. Et t'as certainement d'autres choses à faire aussi.
Ouais, j'ai des petites choses quand même à faire.
Et tu auras... je te demandais, avant qu'on parte, mais je sais que c'est le 40e anniversaire, on en parlait de l'ancien compte, et j'ai déjà vu passer des petites choses. Alors, je pense qu'on va tenter de le souligner de quelconque façon. On invite les gens à se tenir informés parce que je suis sûr qu'on va avoir bien du fun à revenir un petit peu dans le temps.
Ben oui,
ça nous a marqué tout le monde.
Oui, ça a été. Oui, absolument. C'est quelque chose qui a marqué. C'est comme la famille Plouffe a marqué la génération.
Une autre génération, oui. Ouais.
Moi, quand j'étais enfant, la famille Plouffe, c'était le survenant, la famille Plouffe. Et quoi, ouais. Ils faisaient des parades dans les rues. Les gens étaient assis, les acteurs étaient dans des décapotables, puis ils faisaient une parade sur la rue.
Ben pourquoi on ne ferait pas une parade de l'ancien compte? parce que là, on ne fait plus des vraies parades du Canadien de Montréal depuis 1993. Alors, on pourrait prendre le vieux tracé du défilé du Canadien.
Je ne sais pas s'ils reconnaîtraient tous les personnages.
Sûr que oui. Sûr que oui. Marc Messier, ça a été un plaisir.
Vraiment. Ouais, ça me fait plaisir aussi, Richard.
Vraiment. Merci d'être passé à l'émission. Et s'il y a une seule personne qui nous écoute qui n'a jamais vu l'ancien compte ou les boys, arrêtez de faire ce que vous faites puis allez écouter ça parce que ça vaut la peine. Puis c'est notre patrimoine. Le hockey. Ouais. Tu sais, les séries avec le hockey, là, on aime ça.
Oui, absolument.
Alors, s'il y a une suite, tu vas être là s'il y a une suite, j'espère.
S'il y a une suite, il n'y aura jamais de suite, je pense pas qu'il y ait de suite.
On sait jamais.
Si j'étais eux autres, je me presserais.
Oui, le temps presse un peu.
Le temps presse un peu.
Alors, on te laisse filer, Marc Messier. Merci beaucoup pour ton temps.
Okay.
Ça a été un réel plaisir. On fait une petite pause et on revient tout de suite après.